France Culture, 7h53, l'heure de retrouver Delphine Papin pour les cartes en mouvement. Bonjour Delphine.
Bonjour Quentin.
Et ce matin, vous ne nous présentez non pas une carte, mais une frise des décisions états-uniennes au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi ce choix ?
Parce que lundi dernier, le 25 mars, le Conseil de sécurité a voté, après 6 mois de guerre dans la bande de Gaza, une résolution qui demande un cessez-le-feu immédiat. C'est important à noter, Quentin, car c'est la première fois depuis le 7 octobre que les États-Unis s'abstiennent et qu'ils n'émettent pas de veto à un texte qui demande à Israël d'arrêter son offensive. Un changement majeur dans la stratégie de Washington qui consiste habituellement à soutenir la politique israélienne en utilisant souvent son droit de veto au Conseil de sécurité.
Alors, question rituelle, est-ce que vous pourriez nous décrire cette frise cette semaine ?
Nous avons répertorié sur cette frise, sur ce graphique, les 222 résolutions adoptées au Conseil de sécurité de l'ONU et qui ne concernent que la politique de l'État hébreu depuis 1948, date de la création de l'État d'Israël. Et nous avons également reporté sur ce même graphique la liste des 55 vétos qui ont empêché une résolution d'être adoptée.
Vote, abstention, veto, Delphine, vous nous feriez un petit cours rapide de relations internationales pour nos auditeurs et pour moi aussi.
Alors pour faire très simple, Quentin, le Conseil de sécurité, c'est l'organe exécutif des Nations Unies, ça vous le savez, qui compte 15 membres. C'est lui qui se réunit en cas de menace contre la paix mondiale pour décider par exemple s'il faut envoyer une mission de casque bleu ou autoriser une opération militaire. Les décisions du Conseil de sécurité s'appellent des résolutions et une résolution n'est adoptée que si au moins 9 membres votent en sa faveur. Mais dans ce Conseil, il y a aussi 5 membres permanents, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine, qui peuvent émettre un veto et bloquer par conséquent la résolution.
Et donc l'État hébreu a fait l'objet de 222 résolutions.
Oui, Quentin, sur plus de 2700 résolutions adoptées depuis la création de l'ONU. Mais ce qu'il faut regarder de plus près, ce sont les vétos émis par les États-Unis.
Et on voit sur votre graphique qu'il y en a beaucoup.
Effectivement, Quentin, mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusque dans les années 1960, les États-Unis sont peu impliqués au Proche-Orient, car à l'époque, c'est plus une affaire qui concerne les ex-puissances mandataires, à savoir la France et le Royaume-Uni. Après la guerre des Six Jours, en 1967, Israël devient un allié indéfectible des États-Unis pour contrer l'influence soviétique au Proche-Orient.
Et c'est donc à ce moment-là, pour le soutenir, que les États-Unis commencent leur politique du veto à l'ONU ?
Exactement, Quentin. En 1972, les États-Unis utilisent pour la deuxième fois leur droit de veto pour bloquer une résolution qui condamnait l'occupation israélienne depuis la guerre des Six Jours. Et depuis cette date, ils ont mis en échec 46 résolutions mettant en cause la politique israélienne. 46 vétos sur un total de 86 émis par les Américains au Conseil de sécurité.
Alors à quel type de décision s'oppose-t-il ?
À des résolutions qui condamnent par exemple la colonisation israélienne comme en 1983, ou la barrière de sécurité en Cisjordanie en 2003, ou encore à plusieurs reprises les expropriations israéliennes à Jérusalem-Est.
Mais ce veto n'est pas systématique, on l'a vu le 25 mars avec l'abstention qui a permis l'adoption d'une résolution très très attendue.
Tout à fait, Quentin, car depuis près de 6 mois, le Conseil de sécurité était paralysé par une série de vétos américains et de contre-vétos russes et chinois s'opposant à des résolutions proposées par Washington. Pour n'en citer que deux, le 18 octobre, les États-Unis se sont opposés à la résolution qui demandait la création de couloirs humanitaires à Gaza, au motif que le texte ne mentionnait pas le droit d'Israël à se défendre après les attaques du 7 octobre. Et puis, le 25 octobre, c'était au tour de Moscou et de Pékin de refuser un texte proposé par Washington qui condamnait les attaques terroristes du Hamas, mais qui n'évoquait pas les causes profondes de la crise humanitaire dans la bande de Gaza.
Et est-ce que c'est la première fois que Washington ne soutient pas Israël en faisant le choix de s'abstenir ?
Non, Quentin, ce n'est pas la première fois et ce sont les points entourés en noir que vous voyez sur le graphique. On en a entouré 51, soit 51 fois où les États-Unis ont laissé passer un vote en faveur de résolutions très critiques contre Israël. En 2016, par exemple, sous l'administration Obama et plus précisément à la toute fin de son mandat, le président démocrate avait laissé passer, en s'abstenant, une résolution qui condamnait et demandait l'arrêt de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Un camouflet à l'époque pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Un peu dans le fond comme aujourd'hui.
Vous avez raison, Quentin, les États-Unis ont beau assurer que cette abstention n'est pas un changement de cap dans leur politique. Pour le premier ministre israélien, il s'agit d'une rupture claire avec le soutien constant de Washington depuis le 7 octobre. Dans la foulée de ce vote, d'ailleurs, Benjamin Netanyahou a d'ailleurs annulé l'envoi aux États-Unis d'une délégation israélienne pour discuter de l'offensive qu'Israël prévoit sur la dernière partie de la bande de Gaza, autour de la ville de Rafah. Une offensive que Joe Biden ne souhaite pas.
Et si l'on fait la synthèse, Delphine, de cette frise, quelle leçon tirez-vous de la dernière décision de Washington au Conseil de sécurité de l'ONU ?
Eh bien que les vétos et l'abstention sont à la fois des leviers pour les États-Unis pour soutenir Israël, mais aussi pour marquer une prise de distance. On peut donc voir la dernière abstention comme une marque de l'agacement croissant de Joe Biden vis-à-vis de l'entêtement de Benjamin Netanyahou à poursuivre une offensive militaire très meurtrière pour la population gazaoui.
Merci beaucoup Delphine Papin. Et un conseil de lecture, Israël-Palestine, Anatomie d'un conflit, cela vient de paraître aux éditions Les Arènes, c'est signé Thomas Snegaroff et Vincent Lemire, et on y trouve vos cartes superbes pour tout comprendre sur le conflit en cours.